Coucou les amis, micro-promo avant de démarrer pour vous dire deux petites choses. Premièrement, j'ai écrit un nouveau spectacle qui s'appelle « On disait qu'on faisait la fête » et je vais le jouer un peu partout, en tournée, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, même en Asie. Toutes les dates sont sur fannyruet.com. Et puis deuxième nouvelle, mon roman « Bien sûr que les poissons ont froid » sort en format poche le 2 mai et il sera dispo le même jour en livre audio. Je l'ai enregistré moi-même, j'ai trop aimé faire ça et je suis trop contente du résultat, donc yay!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
Ce qui est génial, c'est qu'au contraire, l'approche philosophique te libère complètement de ça. T'as pas de bonne ou de mauvaise réponse. Dire qu'il y a pas de réponse, ça veut pas dire « ouf, je vais pas me tromper ». Ça veut dire qu'au fond, ce qu'il y a d'intéressant dans la vie, c'est pas ce qu'il y a une réponse. C'est sortir de tout ce formatage très scolaire qu'on a eu et qui laisse entendre que, en fait, la vie peut se résoudre à des cases à cocher et des QCM. Mais rien de plus ennuyeux.
Cette semaine dans Les gens qui doutent, j'ai le plaisir de recevoir la philosophe, auteure, chroniqueuse et productrice radio Adèle Van Rett. Depuis 10 ans, Adèle anime et produit l'émission Les chemins de la philosophie sur France Culture, que personnellement j'aime beaucoup parce qu'elle y aborde la philosophie, mais en partant régulièrement de sujets qui sont très classiques, vraiment de notre quotidien. Il y a par exemple une série d'émissions sur le thème La chambre, enfer ou paradis, qui regroupe 4 épisodes où on voit les visions de Blaise Pascal, Virginia Woolf, Jean-Paul Sartre et Marcel Proust sur ce sujet assez basique qui est la chambre. Donc c'est vraiment hyper intéressant et ça reste accessible à tous, même si on n'y connaît absolument rien à la philo. Parallèlement à ça, on l'a vu et entendu dans pas mal d'autres émissions, notamment les capsules Dardar sur France 2, Le Cercle sur Canal+, ou encore dans quelques numéros dont n'est pas couché. Et cette année, elle a sorti son premier essai, La vie ordinaire, chez Gallimard. Un essai qui m'a beaucoup touchée. En fait, j'avais envie de poster des photos de chaque page sur Instagram pour que plein de gens puissent lire ce que j'étais en train de lire. Et d'ailleurs, je vais citer quelques passages dans cet épisode. Donc je suis très heureuse d'avoir pu discuter avec Adèle Van Rett. On a parlé de plein de choses, de ses ambitions, puisqu'elle voulait de base faire du théâtre, puis elle a fait de l'architecture, puis de la philo avant de se retrouver chez France Culture, de sa passion pour la radio et de la fois où quand elle était petite, elle a fait une pétition avec plein de fausses signatures pour sauver la radio pour enfants super loustique, du fait qu'elle aime bousculer les idées reçues et aller là où on ne l'attend pas, de comment elle s'est retrouvée à seulement 29 ans à la tête d'une émission de philo sur France Culture, de la lutte que représente pour elle l'écriture, de sa tendance à juger ce qu'elle écrit et de sa difficulté à parler en jeu, et puis évidemment de son essai La vie ordinaire dans lequel elle tente de mettre des mots sur ce qu'est la vie ordinaire. Extrait. Le drame, c'est l'eau tiède, la vie qui continue après la fin du film et dans laquelle il ne se passe rien. Les secondes qui se suivent et se ressemblent d'année en année, on en viendrait presque à la souhaiter, la fin, pour qu'enfin il se passe quelque chose. Interrompre le flux par tous les moyens, quitte à y laisser sa peau. Et pourtant, ça continue. Comment endurer la durée ? J'y connais rien en philo. Donc, je vais vachement scotcher à ma feuille, je pense, parce que j'aurais peur de dire n'importe quoi.
Mais on s'en fiche. Enfin, le but, c'est pas de faire un cours de philo, si ?
Non, mais même des fois, genre, potentiellement, si je te pose une question où tu dis, mais ça n'a pas de sens, en fait.
Non, mais toutes les questions ont un sens. Non, enfin, sois pas inquiète là-dessus. T'inquiète,
okay.
Vraiment.
Ok. J'étais assez angoissée de t'inviter. Et puis, j'en ai parlé à Alex Vizorek. Il m'a dit, non, tu verras, c'est la plus marrante de France Culture. Puis, il a ajouté quand même, ils sont pas très drôles chez France Culture, mais quand même. Donc voilà, ça m'a un peu... Si Alex dit que ouais, c'est bon, c'est bon. Bah déjà, j'ai beaucoup aimé le livre. Mais j'ai ressenti un truc un peu contradictoire de... À la fois une sorte de grosse angoisse de... Oh mon Dieu, elle a mis des mots sur une chose que j'avais même pas remarqué. Donc c'est comme quand tu fais remarquer un bruit et puis qu'après, on sait plus se détacher de ça. Et d'un côté, une sorte de truc extrêmement agréable... Quelque chose d'un peu une insatiabilité comme ça de « Oh mon Dieu, j'ai plein de choses à lire à ce sujet-là » parce que tu laisses plein de petites portes qu'on peut aller ouvrir pour se renseigner sur d'autres choses. Et donc j'ai eu ce truc vraiment très, très contradictoire. Bon, du coup, au final, c'est positif. Mais voilà, je voulais juste dire ça au début.
Ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est vraiment un des effets du livre, enfin, tu dis contradictoire, oui, et encore, enfin, parfois la contradiction est accueillie avec beaucoup de plaisir et parfois elle dérange. Mais j'ai bien conscience de ce côté-là du bouquin qui parfois peut déranger parce qu'il nomme des choses qu'on n'avait pas du tout envie de voir nommer, ni de se rendre compte qu'en fait on les voyait, mais on savait pas qu'on les voyait. Et de l'autre, il propose pas de solution, en fait. Enfin, c'est que je donne les problèmes, puis après, je dis, bah, voilà.
Démerdez-vous.
C'est un peu ça. Donc, je comprends aussi une espèce de frustration, voire de déception, voire de... Enfin, il y a une ambivalence, en tout cas, qui est inhérente au texte et que j'assume tout à fait. Enfin, je la comprends.
L'ordinaire n'est pas le banal, unanimement déprécié. Le banal est fade, lisse et transparent. Il glisse sur moi et ne retient pas mon attention. Il me laisse tranquille. L'ordinaire, au contraire, pesait à l'intérieur de moi. Je me sentais consubstantiellement liée à lui. Il semblait arriver à mes intestins et me lestait d'un poids familier. Je ne le voyais pas, mais je savais qu'il était en moi. Je me sentais grosse d'ordinaire, comme on incube d'une maladie. L'ordinaire n'est pas non plus le quotidien, facile à décrire. Je peux énoncer chaque geste, chaque objet, chaque personne qui compose mon quotidien. D'ailleurs, je dis mon quotidien, mais mon ordinaire, lui, semblait indescriptible. J'avais mis le doigt sur quelque chose. Que m'évoquait ce mot? Un lieu, un état, une attitude? Tout se passait comme si je ne voulais pas savoir. L'accès était bloqué. Malaise. J'aurais pu m'en détourner, penser à autre chose, mais c'est par le corps que ça me prenait. Je voulais comprendre. Le harpon était lancé, je n'étais pas en paix. Et ce mot d'ordinaire me mit sur la piste de l'intranquillité. Tu veux bien définir l'ordinaire
pour J'aimerais bien, mais si j'avais une définition, j'aurais jamais écrit livre, je crois.
Mais de façon dont... Enfin, expliquer aux gens de quoi ça parle. C'est quoi l'ordinaire dont justement t'essayes, sur lequel t'essayes de mettre des mots? Ce truc un peu... qu'on devine, mais sans pouvoir exactement faire les contours.
Mais je le dis, c'est même pas pour faire une je sais pas comment dire, une image ou une boutade quand je dis que c'est difficile à définir. C'est que vraiment, un des problèmes de l'ordinaire, c'est que les tentatives de définition se cassent le nez sur l'expérience. C'est d'abord une expérience, et c'est un rapport au monde, en fait, je crois. Je l'expliquerai, mais je crois que c'est pas un lieu, c'est pas un adjectif. Souvent, dans le langage courant, on utilise ordinaire comme étant le synonyme de banal. On dit oui, ça c'est ordinaire, ça veut dire c'est pas extraordinaire, donc c'est banal, c'est courant, c'est familier, c'est commun. L'ordinaire tel que je l'entends est tout sauf banal au fond, parce que c'est cette partie de la vie qu'on a sous les yeux et qu'on passe notre temps à fuir, et qu'on ne veut pas regarder, qu'on recouvre de couches bien agréables de déni, de divertissement, de fuite, etc. Et dès qu'on prend le temps d'enlever ces couches-là, de faire un travail presque d'excavation, on arrive à ce que je nomme l'ordinaire, et qui, au fond, nous est complètement inconnu. L'ordinaire, bien compris, n'est pas du tout le familier ou le connu. C'est quelque chose sur lequel on n'a jamais mis de mots. Et qui est une espèce de manière qu'a le réel de nous présenter un visage. Qui est ordinaire parce qu'on croit le connaître très bien, qu'il est là tout le temps. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est là tout le temps. Et en même temps, c'est comme si c'était le fin mot de tout. C'est comme si on touchait le réel pour ce qu'il est. Il y avait une espèce de, comme une espèce d'absurdité des choses. Ah bah oui, les choses sont. L'ordinaire, c'est le dernier truc qu'on peut toucher quand on enlève toutes les couches. Ce qu'on peut appeler le réel, ce qu'on peut appeler autre chose. Et qui, quand on en fait l'expérience, a quelque chose de vraiment déstabilisant parce qu'on se dit, mais, ah oui, au fond, on vit, on fait des choses, on travaille, on s'échappe, on aime, on voyage et, mais au fond, on est fait de ça, de ce rapport-là, très ordinaire au réel. Et pourquoi est-ce que ça pèse, ça, de se rendre compte de son port? Pourquoi est-ce qu'il y a un poids? C'est ça que j'essaie de nommer, de comprendre.
La vie ordinaire est une vie de faux cul. On fait comme si c'était déjà ça, de vivre tranquillement. Comme si on ne voulait pas d'aventure. Comme s'il suffisait de se la couler douce dans les plis du laisser-être pour atteindre la tranquillité tant recherchée. Sauf que la plupart du temps, on n'y arrive pas. Puisque l'existence humaine est à la fois provisoire et continue, puisque rien ne dure et que le temps ne se retient pas, la tranquillité n'est pas de ce monde. Et c'est tant mieux, que le dard de l'intranquillité vous pique encore et encore. Demandez-vous au moins une fois si le nombre d'années parcourues, les épreuves et les angoisses endurées, si vous avez vécu tout ça pour vous réfugier dans la mauvaise foi de l'émerveillement ordinaire, sans jamais vouloir fouiller en dessous, remuer la vase qui étouffe vos désirs et vous fait croire qu'être quelqu'un, c'est peser lourd et s'accrocher aux horaires, comme si la vie en dépendait.
Et toi, après, donc ça fait 10 ans que tu travailles sur ce sujet-là, est-ce que ton rapport à l'ordinaire a évolué?
Oui, il ne cesse d'évoluer. En fait, si j'ai décidé d'en faire un livre, c'est qu'il y avait une constante. Mais 10 ans, je sais pas, je pourrais même pas dater au fond, parce que ce sont des scènes, des expériences, des moments... qui, je crois, m'accompagne depuis toujours. Enfin, j'ai des souvenirs de ce même sentiment de rejet très fort à l'occasion d'un rayon de soleil qui vient et au lieu d'être contente, tout d'un coup, je sens que j'ai un sentiment de rejet et j'ai 10 ans Et en fait, ça, c'est rétrospectif. C'est qu'à force d'avoir ce type d'expérience-là, au bout d'un moment, quand j'ai été en âge de me dire que je pouvais réfléchir et essayer de comprendre ce qui se passait, que je me suis dit que, enfin, que j'ai compris que ça faisait très longtemps que ça m'accompagnait. Et puis, il y a des moments où je ne voyais que ça, des moments où je le voyais pas du tout. Au fond, un des malentendus du, non pas du livre, parce que dans le livre, c'est très clair, ça prend toute la place, mais, en tout cas, quand je parle du livre, je parle de la narratrice, on me dit oui, mais c'est vous, et c'est vrai. Il n'y a que moi dans la narratrice. En revanche, c'est, j'ai exacerbé cette partie de moi qui trouvait l'ordinaire insupportable. Mmh. La plupart du temps, ça va très bien. C'est pas un rapport, c'est pas tout le temps. Donc, il y a des périodes de ma vie où ça a été très, très difficile. Enfin, difficile, non. Où cet ordinaire-là pouvait être très pesant. Et parfois, j'y pensais plus. Et j'ai tout ramassé dans ce livre-là pour essayer d'en faire une espèce de fil tendu où c'était, oui, un problème persistant.
Et ça dépend de quoi, le fait que tu le remarques très fort?
Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je sais que depuis que j'ai écrit le livre, les choses qui m'agaçaient me... Enfin, j'ai plus de douceur à l'égard de tout ça. Est-ce que c'est parce que je l'ai écrit? Est-ce que c'est parce que ma vie a elle-même changé? Est-ce que c'est parce que, comme je le raconte dans le livre, en fait, quand la vie elle-même devient plus dramatique, qu'il y a des expériences difficiles qui arrivent, en fait, ce qui avant agaçait devient presque chérissable, parce que c'est quand même la preuve qu'on est encore en vie, et que c'est déjà ça. Donc, je pense que les expériences de la vie modèlent en retour mon approche de la vie, et donc de la vie ordinaire.
Et le moment où t'as commencé à t'intéresser à ça, c'était quand t'étais à Chicago? C'est ça? Quand t'as...
Le moment où le mot ordinaire est venu se désigner cette expérience-là. À travers des auteurs que je nomme dans le livre, un prof qui s'appelle Arnold Davidson, qui enseigne à ses élèves Emerson, Ralph Waldo Emerson, qui était lui-même le prof de Thoreau, Henry David Thoreau, qui a écrit Walden, qui est plus lu aujourd'hui que Emerson. Mais même là, et puis après Stanley Cavell, autant de philosophes que j'ai croisés, qui ont beaucoup compté pour moi et que j'ai choisi de faire exister dans le livre, mais sous forme très, comme des personnages de fiction, au fond, très incarnés. Mais peut-être plutôt que pour leur dire au revoir, au fond, c'est que ce sont ces philosophes-là qui m'ont aidé à prendre au sérieux cette expérience que je vivais et qui m'isolait un peu du reste, à y mettre un mot. Mais aucun ne m'a apporté de réponse et je crois que c'est pas dans cette perspective-là que j'arriverai à élucider le problème que je nomme et qui reste ouvert à la fin. C'est le début, hein. Je pense que l'enquête, elle est encore à mener.
Donc il y aura un 2.
Un 2, la vie, qu'est-ce que c'est après la vie ordinaire? Je sais pas, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir dit 5% de ce que je voudrais dire dans ce livre.
Est-ce que c'est pas frustrant avec la philosophie de trouver plus de questions que de réponses?
Ah, moi, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que les réponses, en fait, sont toujours décevantes. Moi, j'aime le mouvement, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que, non pas que j'ai du mal à rester immobile, au contraire, je suis diplômée en rêverie et farniente horizontale. On sort de 2 mois de vacances, là, enfin, de vacances sans radio, en tout cas. Mmh. Voilà, c'est une des choses que je préfère au monde, mais c'est pas de l'immobilité. Moi, j'aime quand les choses avancent. Et les questions font avancer. Les questions dérangent, bousculent, parfois dynamisent, parfois dynamitent. Les réponses, elles m'intéressent pas beaucoup, je crois. Les réponses, c'est comme un point final, ça se clôt. J'ai pas envie que ça se termine.
Qu'est-ce que la philo a changé dans tes développements mentaux?
Je sais pas ce que c'est qu'un développement mental.
Dans la façon dont tu réfléchis, dont tu vois les choses, dont t'analyses tout ce qui peut arriver, en fait.
Je sais pas. Je me suis jamais posé la question sous cet angle parce que je suis pas sûre de savoir ce que désigne vraiment ce qu'on appelle la philo au fond.
Je comptais sur toi là.
Et non, justement, non, puisque la philo n'apporte pas de réponse, c'est bien commode. Non, mais c'est un corpus de textes avec des philosophes reconnus comme tels, mais ce corpus, il est tout à fait contestable. C'est-à-dire qu'il y a plein de, je pense qu'il y a de la philosophie dans les films, qu'il y a de la philosophie dans la littérature. C'est une manière de réfléchir sur les choses. C'est un goût pour le questionnement, la philosophie. On peut en faire un métier quand on est prof de philo. Ou quand on devient essayiste et qu'on écrit, qu'on fait avancer le travail philosophique conceptuel. Mais je crois que c'est aussi une certaine attitude, c'est aussi une manière de... Oui, ce goût pour les questions-là. Et c'est une question de caractère, plutôt. Je crois que c'est avoir envie de fréquenter... presque d'avoir pour compagnon des gens, des auteurs qui aiment bien, qui ouvrent les yeux. Enfin, c'est un rapport lucide, au fond. C'est quand on fait de la philo, on n'a pas envie qu'on nous raconte des bobards, qu'on n'a pas envie d'être dans l'illusion. On préfère voir la mort bien en face et se dire comment on fait maintenant pour vivre.
Ouais, mais d'un côté, est-ce qu'il n'y a pas un peu un truc derrière lequel se planquer de oui, mais on n'aura jamais la réponse. Et donc, c'est un peu rassurant, non? De savoir qu'on ne peut pas se tromper vraiment.
Mais ce n'est pas une histoire de se tromper ou pas, parce que ce n'est pas des maths. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse.
S'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on ne sait pas se tromper. Donc, est-ce que c'est rassurant? Ou est-ce que ma question n'a pas de sens, tu vois?
Non, 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 mais c'est pas ça. C'est que ce que j'essaye de dire, c'est que t'es pas dans un vrai ou faux. En fait, il n'y a pas d'erreur. Tu vois, c'est pas, alors dire qu'il n'y a pas de réponse. En fait, ta question présuppose que, c'est comme une élève qui aurait peur de se tromper et qui dirait, ouh, bah là, si je réponds pas, moi, je risque de pas me tromper.
Ah, ben, totalement. Mais voilà. J'ai 12 ans et demi, hein.
J'en ai pas beaucoup plus, voire je pense que j'en ai un peu moins. Mais ce qui est génial, c'est qu'au contraire, l'approche philosophique te libère complètement de ça. T'as pas de bonne ou de mauvaise réponse. Dire qu'il n'y a pas de réponse, ça veut pas dire, ouf, je vais pas me tromper. Ça veut dire qu'au fond, ce qu'il y a d'intéressant dans la vie, c'est pas ce qu'il y a une réponse. Tu vois? Mm-hmm. C'est sortir de tout ce formatage très scolaire qu'on a eu. Et qui laisse entendre que en fait la vie peut se résoudre à des cases à cocher et des cuillères, tu vois. Cages, bon lapsus. C'est ce que dit Romain Gary dans La vie devant soi, je crois, cette phrase que j'aime beaucoup. Il dit il parle des gens qui considèrent la vie comme étant un problème à résoudre. Mais rien de plus ennuyeux que de penser qu'il y a une solution et que la vie est un problème qui a une solution. En fait, quand je dis qu'il y a pas de réponse, ça veut pas dire qu'on échappe à l'interrogatoire. Enfin, peut-être. Mais ça veut dire que l'essentiel est ailleurs. C'est jeter un regard qui n'est pas celui de la connaissance en mode trivial poursuite sur les choses. C'est là où moi ça m'intéresse, c'est là où la pensée est très vivante.
C'était comment à l'école du coup?
L'école c'était à la fois bien et ennuyeux. J'ai des longs souvenirs de cours où j'étais à l'arrière et je discutais, et je me faisais virer de cours parce que je parlais, parce que je m'ennuyais. C'est arrivé jusqu'à la prépa.
La prépa, c'est genre avant l'université, c'est ça?
La prépa, c'est après le bac, quand tu choisis de faire... Je voulais faire d'autres choses, et puis bon, je me suis retrouvée en prépa littéraire, alors que je voulais pas faire de dissert, ni rien. Et j'avais des profs passionnants, palpitants, et d'autres qui m'ennuyaient. Et donc, normalement, on se fait pas virer de cours quand on a 20 ans et qu'on est encore étudiant.
Ah, j'avoue.
Voilà, mais j'ai appris plein de choses. J'étais plutôt une bonne élève, mais j'ai jamais aimé la dimension scolaire des choses, au fond. Je pense que c'est pour ça que je suis contente de faire de la radio.
Pourquoi tu t'es retrouvée là-dedans alors que de base, tu voulais faire du théâtre et puis t'as fait de l'archi?
C'est un hasard. J'ai toujours beaucoup écouté la radio, mais j'écoutais parce que j'ai toujours beaucoup écouté de musique. Donc j'ai toujours eu une radio allumée à côté de moi. Et quand j'étais petite, c'était d'abord des radios pour les enfants. Ça s'appelait Super Loustique, cette radio que j'écoutais, que j'adorais, qui un jour a failli disparaître, donc il fallait signer des pétitions. Et puis comme à l'école, personne ne voulait signer ma pétition, j'ai fait plein de fausses signatures que j'ai envoyées pour sauver Super Loustique. Le slogan, c'était Super Loustique, c'est mon droit, avec un pouce levé.
Et tu l'as sauvé ou pas?
Ben non, je n'ai pas sauvé. Oh. Je sais, c'est pas faux d'avoir imité des fausses signatures. Et je répondais à tous les jeux concours, à tous les quiz et tout. J'étais à fond. J'étais une auditrice très active. Enfin bref, c'est le début de mon histoire d'amour avec la radio où mes parents m'offrent, quand j'ai 5 ou 6 ans, des petits transistors. Alors ceux qui sont nés dans les années 80 se souviendront, Sony coloré, rouge et jaune, avec un micro qu'on pouvait caler comme ça sur le manche. Une espèce de truc qu'on pouvait trimballer partout. Et donc j'enregistrais des histoires, pour moi. Après j'ai eu un petit frère, donc j'ai pu lui raconter ces histoires-là, mais là je voulais me les enregistrer. Et j'écoutais de la radio, donc j'étais déjà bien partie. Mais à aucun moment j'ai dit « je veux faire de la radio ». Et puis, je voulais faire quelque chose. Moi, je voulais faire un truc très créatif et je voulais jouer. C'est vrai, je voulais être comédienne. Et mes parents m'ont dit qu'ils pouvaient pas me financer. Enfin, ils savaient que les études de théâtre ou de cinéma n'amenaient pas tout de suite un emploi, on va dire.
C'est sûr que la philo.
j'ai jamais dit que je voulais être philosophe. Et donc, ils m'ont dit, non, mais sois diplômée d'abord. Après, tu fais ce que tu veux. Et donc, je me suis retrouvée. J'ai dû m'inscrire en archi parce que je voulais faire quelque chose, encore une fois, de créatif. Et c'était pas du tout ça parce que l'école d'archi, j'étais à Strasbourg, était très scientifique, ce que je suis pas du tout. Et donc, je me suis arraché les cheveux durant de longues nuits blanches à essayer de faire des maquettes au millimètre près. Je renversais la colle, je me coupais avec le cutter. C'était n'importe quoi. Et donc, j'ai fini par aller en prépa parce que, bon élève que j'étais, je savais faire des disserts. Je me suis dit, j'y vais 2 ans. Et après, je vais aller faire autre chose. Puis je me suis fait prendre au jeu, j'ai découvert la philo, j'ai découvert plein de choses. Je sais pas trop ce qui m'a fait tenir, parce que c'était dur, c'était très dur.
C'est combien de temps du coup que t'as fait?
Normalement c'est 2 ans, j'ai fait 3 ans. Et j'ai intégré l'ENS qui était pas du tout prévu. Enfin c'était bizarre, c'était une autre personne pour moi qui avait intégré. J'ai bossé avec acharnement, je peux pas dire que c'était un coup de bol, parce que j'ai vraiment tout fait pour avoir cette école, mais quand ça arrivait, je me suis regardée en me disant, mais non, ça c'est pas moi, et puis surtout moi je veux pas être prof, et moi je suis pas cette fille qui peut réussir ça intellectuellement, c'est pas comme ça que je me concevais.
Pourquoi?
Parce que moi j'étais de l'autre côté, je voulais être du côté créatif, jouer, faire du cinéma, faire du dessin, mais pas faire des dissertes. Et donc j'ai vécu comme une espèce de scission en moi, c'est très étrange. J'avais réussi quelque chose de très difficile, qui me rendait fière, mais dans lequel je me reconnaissais pas. Et j'y suis allée, en bon mouton. La question c'est pourquoi j'ai pas arrêté plus tôt, hein, pourquoi j'ai pas tout envoyé balader pour aller faire prendre mes cours de théâtre.
Mais c'est assez marrant, tantôt tu disais en philo on n'aime pas... On aime être face à la vérité et tout, mais le théâtre, c'est jouer des choses qui sont pas vraies, c'est faire semblant.
Ah oui, mais je crois que c'est comme ça qu'on atteint la vérité. Au fond, la fiction et le jeu sont le meilleur détour vers la vérité. Parce qu'on, quand on rejoue quelque chose, on le voit mieux. On le voit vraiment. De même qu'en écrivant ce que j'ai écrit, je peux attirer l'attention de certaines personnes sur des choses qu'ils n'avaient pas vraiment vues. Il faut un mot pour qu'on voit vraiment ce qu'on a sous les yeux. Le théâtre, le cinéma, c'est pareil. La caméra nous révèle ce qu'on voit sans le voir. Donc, pour moi, ça approche encore plus du réel. Le théâtre, le cinéma, la littérature, c'est pas une manière de s'en éloigner.
T'avais envie de faire quoi en théâtre? T'avais envie de jouer quoi?
Je voulais jouer, je voulais être quelqu'un d'autre. Je crois que c'était assez présent, je me le disais pas comme ça, mais j'avais envie d'être quelqu'un d'autre que moi. Et de vivre d'autres vies que la mienne. Alors je sais pas si c'est la mienne était particulièrement insatisfaisante, mais en tout cas c'est comme si une vie c'était... Je voulais vivre plein d'autres choses, en fait. C'était une sorte d'appétit de la vie qui faisait que je voulais vivre plein d'expériences différentes.
Alors que là, je pense qu'il y a quasiment mot pour mot l'inverse dans le livre aujourd'hui, non? Je voudrais pas vivre d'autres vies que la mienne.
Ouais, exactement. Mais il y a toujours ce même problème d'arriver à dire que cette vie est bien la mienne. Tu vois? Au fond, c'est peut-être que ce qui m'a... Et je pense que c'est ça, d'ailleurs. Ce qui me donnait envie de devenir quelqu'un d'autre, de vivre d'autres vies que la mienne... C'est parce que la mienne ne me paraissait pas être la mienne. C'est comme si j'étais à côté de ma propre vie. Et c'est qu'en jouant d'autres rôles, j'allais peut-être approcher de ce qui me semblait être plus proche de ma vie.
Et donc comment t'as fait, au final, pour être plus proche de ce que t'étais?
Je sais pas si je suis arrivée. Enfin, je crois que c'est toujours une lutte, c'est toujours un problème. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, je suis très contente de ce que j'ai fait. Parce que bon, voilà, après, je vais pas faire tout année après année. Mais quand je suis arrivée à la radio, je me suis trouvée dans un univers où j'avais jamais pensé que je pourrais aller, même si j'ai fait un stage très vite à la matinale de France Culture quand j'ai intégré l'ENS, mais de 2 mois, et puis je me suis dit, bon, je pourrais jamais travailler là. Et quand j'y suis vraiment arrivée en 2008, j'ai découvert un univers où je pouvais s'allier deux dimensions de ma vie qui étaient très importantes, la philo et la dimension beaucoup plus créative et intime qu'est la radio. Et je pense que c'est pour ça que je m'y sens aussi bien aujourd'hui. Le studio de radio est un endroit où je me sens chez moi, ça c'est vrai. Là, je me pose pas la question. Là, je sais que j'y suis bien, j'ai envie d'y rester.
Lire ou entreprendre un dialogue requiert une condition. Il faut être prêt à changer d'avis. Rien n'est plus difficile, mais peu de choses sont aussi gratifiantes. Changer d'avis ne signifie pas donner raison à l'autre, mais lui accorder le crédit de sa pensée et accepter de se contredire, non pour adopter le point de vue inverse, mais pour ouvrir cet espace si précieux dans lequel prospère notre seule viatique pour toute discussion, la nuance. Affirmer sans imposer, critiquer sans railler et surtout douter de tout, y compris de soi-même, sans drame ni amertume, avec l'enthousiasme d'un cœur léger qui sait regarder ailleurs. Telle est l'éthique du dialogue.
La plupart des... Quasiment toutes les choses que j'ai regardées de toi en radio, en télé, n'importe, c'est toujours de la forme d'interview. Et pas vraiment de face cam à part dardard où t'expliques des choses, c'est toujours des échanges. Est-ce que c'est un truc conscient chez toi ou c'est juste que ça se présente comme ça ou...
Moi, j'aime l'entretien, en tout cas. C'est vraiment ce que je préfère faire et à la radio et... Enfin, dans le domaine de mon travail, je préfère... J'aime beaucoup les entretiens. J'aime beaucoup discuter avec des invités, des gens que je connais ou que je connais pas, et de voir ce qui peut sortir d'un entretien qui n'était pas prévu, de voir ce que la personne dit alors qu'elle n'avait pas prévu de le dire, ce qu'elle dit sans le dire, mais qu'on entend dans sa voix ou dans son silence. Et cheminer ensemble comme ça j'aime beaucoup. J'ai moins de goût pour les monologues ou et surtout parce que c'est le ton que ça implique. En fait, je suis tellement pas sûre de grand chose que quand tu parles seule, tu as forcément un ton un peu péremptoire au bout d'un moment. Enfin, tu fais comme si c'est toi qui savais, mais j'ai jamais voulu avoir cette posture là. Donc c'est pour ça que j'aime bien être sans doute la personne. Contrairement aujourd'hui, qui pose des questions et qui donne la parole, parce que Ou j'aime bien parler en mon nom, ou alors c'est très subjectif. C'est ce que je fais dans le bouquin, d'ailleurs. Je dis je et je prétends faire la morale à personne, ni détenir aucune vérité. Alors que, voilà.
Est-ce que c'est... de nouveau, ça rejoint un peu la question que j'avais posée tantôt, mais est-ce que c'est un truc que tu fais parce que tu trouves que ça nécessite de ne pas prendre de position, de ne pas dire des choses dont on n'a pas la certitude? Ou est-ce que c'est de nouveau une façon de... genre un peu par trouille comme ça, tu vois, de rester un peu derrière et de laisser les autres parler, parce que tes invités, pour le coup, oui, même s'ils disent pas avoir des certitudes, ils exposent quand même des choses plus factuelles, plus dont on attend plus de, en tout cas, de véracité. C'est pas vraiment des avis.
Et ce serait la peur de quoi?
Mais je sais pas.
Non, mais ça m'intéresse.
Mais je sais pas, moi, une peur de prendre le risque de dire quelque chose avec lequel...
Quelque chose de faux?
Ouais.
La maîtresse me traite une mauvaise note.
Mais...
ça, je m'en fiche. Non, le faux, le vrai, c'est pas ça. Qu'il y ait de la peur, sans doute. Alors ça, j'ai jamais analysé ça sous ce prisme-là, mais... Enfin, en tout cas, ce que je me dis, et peut-être que je suis dans le déni, hein, mais c'est que j'en ai pas le goût. Enfin, et puis c'est deux exercices très différents, mais... Peut-être que j'ai pas encore atteint un niveau de comment dire d'expertise en un domaine qui me ferait me sentir légitime pour prendre la parole sur tel sujet. Enfin, je le fais quand c'est des domaines où moi j'ai bossé justement, mais ça m'intéresse pas de. Pourquoi est-ce que je vais pas sur les plateaux télé pour faire l'analyse de l'actualité ou jouer la philosophe de service et tout, parce que pour moi c'est pas du tout mon rôle. Je sais pas, parce qu'on a pratiqué de la philosophie, on a fait des études de philosophie, etc., qu'on a un mot à dire sur tout. Enfin, je suis pas à l'aise avec ce rôle-là. J'ai rien contre ceux qui le font, mais pour moi, c'est pas comme ça que je conçois la pratique de la philosophie ou de mon métier. Alors, est-ce que c'est de la peur? Peut-être. On peut aussi voir ça comme étant de l'honnêteté. C'est-à-dire que ça m'intéresse pas de faire comme si je savais plein de choses que je sais pas, ou comme si j'avais un truc intelligent à dire tout le temps. Je me tais quand j'ai rien à dire. Le comme si m'intéresse pas trop.
T'as participé quelquefois à des émissions justement télé où les gens ont un peu cette tendance à toujours avoir un avis sur tout et machin. Est-ce que
tu parles de Ruquier?
Oui. Est-ce que tu t'es senti à l'aise dans cet exercice-là, en essayant d'arriver là-bas avec un peu plus de retenue que les autres, ou est-ce que tu t'es dit ouais, en fait j'ai essayé mais non?
Les expériences sont bien passées pour moi. C'était très instructif pour moi d'avoir des longs entretiens. C'est quand même ça aussi, d'avoir une heure face à un politique. C'est des choses que j'avais pas faites sous cet angle-là. J'avais fait, mais je parlais littérature avec les politiques quand j'animais l'émission sur Public Sénat qui s'appelle Livrez-vous. Je pense que j'en ai fait assez vite le tour, parce que si je suis pas à l'aise, c'est dans la position de critique. Encore une fois, parce que j'ai beaucoup de, je ne veux pas que mon jugement soit présenté comme une norme. Et donc, à aucun moment, je dis, voilà, votre film est bien, donc j'ai raison, votre film est nul. Enfin, c'est pas une position que, il y en a qui font ça très bien et mieux que moi, donc c'est pas une position que j'aime beaucoup. Et puis surtout, j'ai envie de participer à des émissions si je peux vraiment apporter quelque chose et si je sens que ça m'enrichit aussi. Et c'était le cas parfois, c'était moins le cas à d'autres moments. Mais bon, moi c'est des aventures qui m'intéressent. Enfin, j'ai un côté aussi, ça m'a amusé, je dois dire, d'aller un peu brusquer l'auditeur de France Culture qui s'est demandé pourquoi est-ce que j'allais aller sur On n'est pas couché. Et j'aime bien un peu bousculer ceux qui ont quand même des idées reçues, parce que ça en reste. J'ai montré qu'il n'y a pas vraiment de frontières. Quelle est la différence entre essayer de faire réfléchir les gens sur France Culture et les faire réfléchir chez Ruquier? Si on a une liberté de parole et qu'on peut faire réfléchir. Ça, c'est mon boulot, par contre. Peut-être que je l'ai mal fait. Peut-être, en tout cas, ça ne m'a pas satisfait, sinon j'aurais continué. Mais pour moi, la démarche, elle est la même. Tant que j'ai la liberté de dire ce que je veux. Donc, c'est pas... Il y avait une cohérence. Après, au bout d'un moment, je ne m'amusais plus. C'est plutôt ça qui fait que je pense que j'ai fait le tour de ça. Voilà.
Est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu aimerais faire dans les médias ou dans la vulgarisation, ou un truc où tu dis ça, peut-être pas tout de suite, mais un jour je le ferai?
Je sais que je veux continuer à faire de la radio. Peut-être pas les chemins de la philo pendant toute ma vie, mais...
Ça fait déjà un bail, là.
Ça fait 10 ans. Ouais. Donc à voir si je continue ça ou pas. En tout cas, la radio, je veux pas arrêter la radio. J'ai pas beaucoup d'ambition, en fait, dans les médias. Je suis très contente de faire le boulot que je fais, mais je me dis pas que je vais... J'ai pas des rêves d'émission. fait, moi, si je peux faire mon émission de radio, écrire mes livres, je suis très contente. Le reste, c'est en plus. C'est, voilà, c'est des choses qui peuvent m'amuser, c'est des choses que je peux essayer. C'est ni une vocation, ni une fin en soi. Et pour tout te dire, je suis pas hyper à l'aise. Je sais que c'est très paradoxal, hein, mais je suis pas hyper à l'aise avec l'exposition médiatique et télévisuelle, avec l'image. Je préfère largement, j'aime bien l'idée d'une émission qui est beaucoup écoutée, que les gens adorent, mais qu'on n'associe pas forcément à mon image. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Je dissocie vachement ça. Et j'aime bien vivre un peu peinard, donc je préfère ça. Alors pourquoi je fais de la télé, hein, c'est la question. Évidemment, il y a une contradiction. Je dois chercher autre chose, ou alors je suis pas au clair avec moi-même. Mais c'est pas ce que je recherche. Et la télé conduit quand même à ça.
Quand t'as repris les chemins de la philo, donc on avait un autre nom, apparemment t'étais, ils hésitaient à te le filer à toi parce qu'ils avaient d'autres noms en tête assez gros. Luc Ferry, je pense.
Oui, enfin c'était des noms de personnes beaucoup plus connues et médiatiques que je ne l'étais du haut de mes 25 ans, ça c'est sûr.
C'était 25 que t'avais.
2008, je suis née en 82, décembre 82, donc oui, 25 ans. Non, quand je suis arrivée à France Culture, quand j'ai repris les chemins de la philo, c'est 2011, donc j'avais 29 ans.
Ok, comment tu... Ça devait être terrifiant.
28, ouais.
De se dire, ok, ils auraient pu le filer à quelqu'un qui a déjà prouvé, en quelque sorte, sa valeur, entre guillemets, et puis toi, tu te retrouves avec ça dans les mains. Comment tu t'es sentie?
Le premier direct, tu veux dire?
Ouais, ou même quand ils t'ont annoncé, en fait, tiens, ouais. voilà l'émission.
C'était dingue. C'était dingue, j'étais terrorisée, ouais. Ah oui. J'étais très contente et complètement flippée. Ouais, c'est exactement ça.
Mais comment t'as... Enfin, c'est tellement huge.
J'ai sauté. J'ai fait... Alors, il y a un truc qui m'a permis de faire plein de choses dans ma vie, c'est que même quand je suis terrifiée, j'y vais. Ça, c'est vraiment un des seuls trucs que j'ai observé chez moi qui m'a fait faire aller... qui m'a fait faire réussir des choses qui me paraissaient impossibles, c'est que c'est comme dans un grand bain et t'es sur un plongeon de 20 mètres et tu fermes les yeux et tu sautes. Puis la plupart du temps, ça se passe bien. Parfois, ça se passe mal. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai sauté et puis j'ai commencé les directs, les uns après les autres. Et mon troisième direct, l'invité n'est pas venu. Donc j'ai appris très, 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 très vite.
Et du coup, il s'est passé quoi?
Il est arrivé au bout de 30 minutes. Donc pendant 30 minutes, j'ai meublé.
Une émission de philo?
Ouais, je l'ai fait. Je passais des extraits, je lisais des textes, je blablatais, je faisais. Il est arrivé, je l'ai reçu, imperturbable. L'émission s'est terminée, l'invité est parti, je me suis effondrée. Effondré. J'ai tenu bon le temps de la bataille. Et là, c'est un renseignement sur moi-même. Ça voulait dire, ok, ben je peux. Bon, après, je craque. Et je me suis, évidemment, enfin, on craque, c'est normal. Hein. Et donc, je me suis découverte aussi à ce moment-là.
Il y a d'autres choses que l'émission, que ton travail t'a appris sur toi-même?
Oui, sans doute que je me lasse pas que j'ai une espèce de curiosité qui se lasse pas. Parce que chaque année, je me dis, bon, là, j'ai fait le tour. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans que j'anime cette émission. J'en peux plus la 8e semaine sur Montaigne ou sur Spinoza. Et ben en fait, si. Et je me rends compte que... Et puis j'ai encore des envies. Il y a encore des thèmes que j'ai pas fait, que j'ai envie de faire ou que j'ai envie de refaire. Il y a encore des choses que j'ai envie de lire. Il y a encore des discussions que j'ai envie d'avoir. Et ça, l'émission me renseigne là-dessus. Et je m'en étonne moi-même. Et tant mieux, je me réjouis de ça parce que c'est ce qui fait que je peux continuer à le faire. Mais oui, ça c'est quelque chose que j'ai découvert avec l'émission. Et puis plein de choses, d'année en année, j'ai un autre regard sur l'émission. J'essaye toujours de la faire changer ou évoluer, même de manière très subreptice, sans que les gens s'en rendent compte. Mais j'essaye toujours de conjurer la répétition avec quelque chose d'un peu nouveau, inattendu. Et ça, ça m'apporte plein de choses qui me satisfont, au fond. Ça répond à plein de goûts et de besoins que j'ai. Et donc c'est rare. Donc j'ai un rapport très, très proche à cette émission. Ouais.
Est-ce que des fois, tu t'ennuies encore dans la vie? Ou est-ce que tu as toujours des curiosités qui viennent de partout?
Non, l'ennui, je sais vraiment plus ce que ça veut dire.
Est-ce que
ça veut
pas
dire que je fais toujours quelque chose? Non, mais parce que je sais pas. Je me suis posé la question cet été. Je me suis dit, mais je m'ennuie plus. Est-ce que c'est un problème? Puis je regardais autour de moi qui pouvaient s'ennuyer. Des gens qui ne disaient pas s'ennuyer, qui étaient en train de faire quelque chose, mais en s'ennuyant. Et je me disais, mais moi, au fond, je peux passer 10 heures sur ce lit ou ce transat ou allongé sur la pierre devant une piscine. Dans un endroit, il y avait une piscine. Et en fait, j'ai tellement de trucs dans ma tête que je suis bien. Tu vois, et au contraire, j'adore avoir du temps parce que je peux enfin, je sais pas, laisser des choses arriver, rêver, penser. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire, l'ennui? Ça voudrait dire qu'il n'y a plus rien qui se passe dans ma tête qui m'intéresse. Il n'y a plus d'idées que j'ai envie dessus. Il n'y a plus rien que j'ai envie d'écrire. Parce que c'est ça que ça veut dire dans ces moments-là. J'écris dans ma tête. Je crois que quand on écrit, on ne s'ennuie jamais. Parce que tout est intéressant et tout donne envie de mettre des mots dessus.
C'est jamais fatigant ?
C'est pas ça qui me fatigue. C'est le rythme du quotidien, le rythme quand il est très chargé, quand je travaille beaucoup et que ça me fatigue. J'ai pas beaucoup. Alors là aussi, c'est paradoxal. J'ai pas de plaisir à travailler énormément, au fond. Je le fais parce que j'ai une grande capacité de travail que j'ai développée avec les années d'études et tout ça. Mais je m'en plains souvent quand ça arrive. Je préfère quand je fais voilà mon émission, que j'écris mon bouquin et que j'ai ma vie et ça va. Sinon ça me fatigue. C'est pas le fait de d'écrire en permanence ou de rêver qui fatigue, ça non.
Mais t'arrives à avoir des moments où t'es un peu en off quand même. Ou est-ce que genre vu que t'as bossé beaucoup en philosophie du cinéma et tout, est-ce que tu mates un film et tu sais pas te dire juste ah c'est comique.
Bah si, au contraire, c'est ce que je me dis tout le temps. Je suis pas en train de mettre des concepts sur tout ce que je fais hein. Au contraire, moi, c'est d'ailleurs ce que j'écris dans le livre. Chez moi, c'est pas d'abord l'approche intellectuelle, puis ah oui, mais c'était quand même drôle. C'est parce que quelque chose me fait rire ou m'interpelle ou me rend triste que ça m'interroge.
Oui, mais justement, est-ce que du coup, c'est des fois, t'es pas fatigué de chercher toujours le pourquoi du comment ?
Mais il y a pas de pourquoi déjà, il y a pas de comment.
Oh, à chaque fois.
C'est chiant, hein. C'est chiant d'interroger quelqu'un qui répond ça tout le temps. Non, mais justement, je crois qu'un des grands trucs de ce livre auquel moi je tiens, enfin des grands trucs, un des axes auxquels moi je tiens, c'est de dire que, au fond, comment on fait, pourquoi est-ce que que l'expérience chez moi, elle est toujours première. C'est d'abord une espèce de grand kiff ou de grand plaisir ou de grand rejet, de grand dégoût. Et qui, parce que quand c'est un rejet ou un dégoût va me poser un problème, je vais essayer de m'en sortir. Et c'est à ce moment-là, où j'interroge, où je vais chercher des philosophes et ça ne marche pas. Donc au fond, c'est pas comme s'il y avait une machine allumée en permanence qui essayait de penser, de mettre dans des cases. C'est l'inverse. C'est que ces cases-là, elles me pèsent parce qu'elles arrivent après et que souvent elles servent à rien. Non mais c'est vrai.
Yes.
Moi, je fais pas partie des gens qui pensent que lire des livres va apporter des réponses ou va changer la vie. Enfin, j'adore, j'ai un rapport animal à l'existence, un rapport premier, voire végétal, un truc de... J'aime quand il y a du soleil sur ma peau et que je peux traîner avec des gens que j'aime et c'est tout. Je déteste qu'on me pose sans cesse des questions sur la philo, sur mais alors Attel disait ça. Mais là, on parle de, c'est plus méta, quoi. Mais qu'on me dise, qu'on s'adresse à moi comme étant la philosophe de service, ça m'intéresse pas. Je me définis, c'est pas moi, enfin, c'est pas ça.
Qu'est-ce qui te fait rire?
Je ris beaucoup et je ris très fort, apparemment. qu'est-ce qui me fait, je sais pas, je suis très bon public, hein. Ça va des blagues vraiment nulles, à des trucs, je sais pas, je saurais pas dire ce qui me fait rire. Mais les décalages, souvent, j'aime bien les décalages, j'aime beaucoup l'autodérision. Mmh. J'ai un humour, je crois que je suis très sensible à l'humour, tout l'humour british, Woody Allen me fait hurler de rire, mais les Monty Python aussi, l'absurde me fait beaucoup rire, ouais. J'ai l'humour juif, j'ai un truc très très juif dans mon rapport à l'humour.
T'es pote avec Eva Bester ou pas?
Je suis pas pote avec elle, mais je suis sûre qu'on s'entendrait. Enfin, on se connaît très bien.
En tout
cas,
au niveau humour, vous avez les mêmes...
Ouais, mais je suis sûre. Enfin, je vois très bien ses références et on en a plein en commun. Puis, de toute façon, même son émission, ça s'appelle Remède à la mélancolie, ça peut pas ne pas me parler.
T'es quelqu'un de mélancolique?
Je pense que j'ai un rapport très... Alors, mélancolique, c'est ça. Moi, je parle d'intranquillité dans le bouquin. Mm-hmm. Et je crois que c'est pas exactement pareil. L'intranquillité, ce serait la version dynamique de la mélancolie. Je pense que j'ai été mélancolique pendant vraiment longtemps. Et que, est-ce que c'est un coup de chance ou est-ce que je me suis démerdée pour que ce ne soit plus le cas? Mais ma vie aujourd'hui ne me rend plus du tout mélancolique. C'est comme si j'avais basculé du côté de... Voilà. Comme si c'était fini, ça. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir. Mais, alors pourtant, je ne pense pas qu'on guérisse de la mélancolie.
Non, c'est juste tapis dans un coin, ça va revenir.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais j'en souffre beaucoup moins. Maintenant, j'ai la forme plus douce et qui me plaît, qui me donne envie d'écrire. Il y a un truc créatif de la mélancolie, alors que j'ai des souvenirs de moments où c'était une enclume. C'était pas du tout doux. Hein.
Et t'en faisais quoi?
Rien. Et donc, j'étais pas très heureuse. Et ça prenait beaucoup de place et je mettais pas le mot de mélancolie. Et c'est complètement impartageable, je crois. Vraiment, enfin, on va pas faire un remède à la mélancolibis, mais je crois vraiment que c'est quelque chose de pas... Un des problèmes avec la mélancolie, c'est qu'on peut pas la partager. Ça isole vachement, je trouve. Alors, on peut lire des textes mélancoliques qui nous font du bien, mais est-ce qu'on a vraiment tout au fond? Parce que c'est très profond, la mélancolie, c'est là, c'est sous les organes, quoi. En tout cas, moi, j'étais désespérée de pas pouvoir mettre des mots dessus. Ça m'isolait, donc ça redoublait. La mélancolie s'ajoutait à un sentiment d'immense solitude et de lassitude.
Tu citais Bergson en disant que question d'être en coïncidence parfaite avec le monde du repas d'art.
Ouais.
Et que justement, dans le livre, tu parles de cette intranquillité qui à la fois est angoissante, mais à la fois justement te fait écrire et tout. Mmh. Est-ce que c'est un peu ce syndrome artiste de je ressens des choses qui sont parfois pas agréables, mais au moins ça me permet de créer. Est-ce que tu te situes dans le à choisir, je garde, ou est-ce que à choisir, tu la réduirais, cette intranquillité?
Je crois
fais
que je
des
garde.
Questions qui ont...
Non, je vois très bien, mais c'est parce que c'est une très bonne question, c'est pour ça que je réfléchis. Je garde. On en reparle dans 10 ans.
Okay.
Mais là, je garde, carrément, bien sûr. Bien sûr, je vais écrire, continuer, je veux bien garder cet aiguillon. Je sens en moi poindre, c'est comme ça qu'on dit, poindre une espèce d'envie de quand même que l'aiguillon soit un peu moins fort et la possibilité pour que ça me déprime pas. Donc je pense que ça ne sera pas tout le temps comme ça, mais là, je préfère en tirer mon parti et au contraire aller jusqu'au bout de ça, ouais. Mais je m'éclate là-dedans, au fond. Donc, même avec les côtés douloureux, jamais tranquille, jamais... Puis au fond, j'en ai des moments tranquilles. Parce que sinon, je serais pas contente à rêvasser au bord d'une piscine une journée. Une journée. Sinon, ce serait pas possible. Donc, mais vraiment, moi, l'écriture m'a permis de transformer quelque chose de très douloureux en quelque chose de, soudain, de créatif et libérateur.
C'est quand même une lutte pour toi, l'écriture ?
C'est une lutte. Alors, bien sûr, c'est une lutte, mais pas toujours celle qu'on croit. Et moi, j'ai pas du tout, c'est pas la lutte de la page blanche ou de quel mot il faut mettre et tout. Ça, j'ai pas ce souci-là. Au contraire, je manque de temps pour écrire. Donc, dès que je peux, je me retrousse les manches et puis voilà. Il y a des fois, ça marche pas forcément. Mais en revanche, je me dis jamais, oh là, tiens, qu'est-ce que je pourrais écrire? C'est plutôt, non, mais là, je voudrais l'écrire et il peut y avoir un état d'esprit qui est pas propice à écrire. Il y a des moments où ça sort moins bien que d'autres, mais je sais que c'est là, au fond, donc ça me rassure. La lutte, elle se situe pas ici. La lutte, elle est pour dégager du temps. Ça, c'est vrai. Très compliqué de dégager du temps pour écrire, parce que je n'arrive pas à écrire un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Il faut que je me dégage deux, trois jours, ce qui est très compliqué avec l'émission, les enfants, la vie, etc. Et encore, si je pars trois jours, je mets un jour à m'y mettre. Le deuxième, j'arrive à peu près. Le troisième, je m'en vais. Donc, au final, ça fait vraiment très peu de temps. Et la lutte, elle est avec ce qu'on pourra appeler le surmoi, avec la petite chose qui me regarde écrire, qui me dit, mais non, tu vas pas écrire ça. Non, mais attends, non, mais non, tu peux pas écrire ça, ça va pas. Non, mais ça.
T'as encore ça?
Bien sûr. Tout le temps.
Mais tu sais qu'il n'y a pas de mauvaise réponse.
Ouais. C'est pas parce que j'ai tort. C'est parce que je me juge.
Tu te juges sur quoi?
Sur ce que je dis, sur ce que. Oui, je pense que ce que je dois me dire, enfin, ce que je me suis beaucoup dit en écrivant La vie ordinaire, c'était, est-ce que t'as vraiment, presque une question de droit, encore plus absurde que le vrai ou le faux, hein, c'est est-ce que t'as le droit, tu vois, est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que déjà, est-ce que tu peux dire je? Pour moi, avoir dit je, c'est l'acte transgressif suprême. Je viens d'un endroit où on dit pas je, hein, sa propre personne passe toujours après. Et puis là, je dis « je parle en mon nom » et je crée une narratrice qui me ressemble beaucoup, qui dit des choses très intimes. C'est un acte ultra transgressif pour moi d'avoir fait ça. Ça paraît rien pour le lecteur. Et moi, ça a été un combat d'accoucher de ça.
C'est quoi ta rigueur de travail, vu que t'as 1000 projets en même temps, 14 émissions à écrire en permanence? C'est quoi ta rigueur d'écriture?
Enfin, j'en ai pas.
Ah, ok.
J'ai pas de rigueur du tout. C'est quand j'arrive, c'est bien.
Ok.
quand j'arrive à dégager du temps et que ça marche, voilà. Mais j'ai pas le luxe d'avoir. Je suis pas écrivaine à temps plein, donc.
Mais même pour le travail, genre la radio et tout ça, comment tu t'arrives à t'organiser pour avoir, vu que t'as beaucoup de projets parallèles?
Ouais, mais oui, c'est une question d'organisation et c'est que je pense qu'après toutes ces années, j'ai développé une faculté j'arrive à m'y mettre vite. Je sais j'arrive à identifier ce dont j'ai besoin. Et donc, quand je bosse avec des équipes, je sais quoi leur demander. Parce que le problème, c'est pas d'être entouré de personnes. Enfin, il suffit pas d'être entouré de personnes qui vous aident pour y arriver. Il faut savoir quoi leur demander. Ça va arriver à identifier ses besoins. Est-ce qu'on a ce qu'on peut déléguer pour que ça puisse marcher? Donc, j'arrive à m'organiser avec mon équipe à la radio ou les autres personnes avec qui je bosse. Et puis, je sais pas, je me pose pas trop cette question-là. Comme je suis pas très, je suis toujours un peu fâchée avec les questions d'ordre. Si je me disais, allez, il faut que je bosse de 8 à 12, c'est sûr que ça marcherait pas.
Ah ouais?
Donc je me dis pas ça comme ça. Je me dupe. Je fais comme si, tiens là, j'avais envie de bosser et que de toute façon, il fallait le faire et hop, ça marche.
Ok.
Je passe ma vie à déjouer des contraintes que je m'impose, hein, de toute façon. Ça, c'est. Celle-là, c'est fatigant. Ça, c'est une vraie lutte. Ouais. Est-ce que ça t'ennuie si je fume une cigarette? Ça me donne envie de fumer?
Pas de souci. C'est des vogues?
Oui, c'est pas les miennes. Moi, j'ai pas de. J'achète jamais de cigarettes. Je tape toujours celle de mon mec. Parce que je fume normalement le.
2 cigarettes par jour?
Le soir, c'est ça. Et c'est exactement le genre de moment où j'ai envie de fumer. Le moment où on me pose des questions sur moi, j'ai toujours envie de fumer.
Ah ouais, pourquoi?
Je sais pas, ça me gêne. C'est un truc où. En fait, j'ai envie de fumer quand, hormis mes 2 cigarettes quotidiennes qui sont parfois une seule, parfois 3. Enfin, c'est pas 2, encore une fois, c'est pas une norme, mais c'est l'envie qui me donne envie de fumer 2 cigarettes. J'ai envie de fumer, dans les moments qui sont plus intimes ou les moments où, si j'ai une super discussion avec une pote, là, j'aurais envie de fumer la journée. Alors que sinon, j'ai jamais envie de fumer la journée.
Pourquoi
c'est plutôt un compliment.
Mais oui, merci. Parce qu'on est potes depuis 10 ans, en fait. J'avais donc 2 ans et demi. Ça t'angoisse encore, les interviews?
Non, pas du tout. Non, ça m'angoisse pas. Mais
le fait de parler de toi?
Mais c'est jamais. Moi, j'ai un problème avec moi, au sens. Avec ce moi. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, je vis assez bien pour quelqu'un qui a un problème avec moi.
Oui, mais c'est. Je suis très surprise.
Ouais. Mais c'est. C'est un problème de. Avec le fait de dire moi, au fond. C'est ça que je parlais, est-ce que j'ai le droit? J'ai un problème avec le. J'ai toujours peur de. Alors, quel exactement? J'essaie de trouver les bons mots. Je suis partagée entre l'envie de surprotéger ma vie. Je distingue le privé de l'intime, voilà. L'intime, c'est ce qui se situe au plus profond de moi et qui, au fond, se situe au plus profond de toi. C'est ce qui fait qu'on peut se parler comme ça. C'est ce qui fait que. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre. Je me dis, c'est en puisant dans l'intime qu'on touche l'intime du lecteur. Le privé, je le distingue. Privé, c'est mes choix de vie, les gens avec qui je vis, ce que j'aime ou pas. Enfin voilà. Et donc j'ai toujours peur en interview de passer de l'un à l'autre. Et donc je suis toujours un peu sur mes gardes à cause de ça. Et je trouve toujours ça prétentieux de parler de soi. J'ai un vieux sur moi janséniste qui me dit.
Un vieux sur moi janséniste. Ah ouais. Ce sera le titre du podcast, fils.
Bah ouais, c'est ça. J'y travaille, hein. Mais bon, voilà. C'est ça. C'est vrai. C'est toujours. Comment est-ce qu'on arrive à parler de soi sans donner l'impression qu'on fait grand cas de soi, tu vois?
Mais c'est normal de faire grand cas de soi. Enfin, c'est.
Ouais, mais alors là, je viens de l'inverse de ça. Hein. C'est pas du tout normal de faire grand cas de soi. C'est mal.
Mais oui, mais c'est tellement humain.
Ouais. Bah, j'essaye d'apprendre.
Mais comment quand tu dis je viens tellement pas de là, tu veux dire quoi?
Bah, de ce que j'ai retenu de mon éducation était quelque chose de plus. C'est moi qui l'ai. Je dis ce que j'ai retenu parce que c'est pas forcément ce qu'on m'a appris, mais en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Une espèce de voilà, il faut quand le moi prend trop de place, c'est un problème. Tout de suite, ça peut devenir de l'orgueil ou quelque chose. En plus, moi je suis grande et j'ai toujours été grande et j'ai toujours parlé fort et donc et ça part en famille, hein, mais plutôt dans mon rapport avec les autres, c'était plutôt. Voilà, on me demande, enfin, je sais pas, ça prenait trop de place. Je dis ça, hein, je dis pas je, ça prenait trop de place. Ça va vraiment loin, ma névrose. Et je pense que j'ai intériorisé un truc, ah oui, non, faut pas trop parler, faut pas trop le dire et
on
tout.
On a combien d'années de thérapie, là?
Ouais, bah, j'ai pas fini, hein. Et qu'est-ce que j'ai choisi comme métier? Un métier où je parle, tous les jours. Donc, je me suis libérée aussi.
Si, dernière question, du coup, est-ce qu'il y a des choses qui te titillent assez dans la vie pour que t'aies envie d'en faire un? De nouveau, une recherche assez longue, un roman.
Oui, alors je pense que je vais beaucoup écrire sur la mort dans les temps prochains.
Yes, that's voilà. My girl.
Voilà, je crois que c'est vraiment... ouais, c'est ça qui m'accompagne.
Je peux demander pourquoi?
Parce que j'y pense beaucoup plus depuis quelques années. Alors, je sais pas si c'est l'âge, quand on vieillit, je me sens pas spécialement vieille, mais au bout d'un moment, on se rend compte que tout le monde autour de soi se sent vieux, donc nous aussi, on doit l'être. non, je suis un peu fascinée par le temps qui passe. Et ce qui est présent dans le livre, déjà, dans La vie ordinaire, comment on fait pour... on veut retenir le temps, en même temps, on n'y arrive pas, c'est ça qui rend intranquille ce qu'on appelle la finitude en philosophie, le fait qu'on va mourir. Et je crois que ça rend ça. Qu'est-ce qui se passe quand on le voit vraiment en face? Est-ce que c'est insoutenable? Et comment est-ce qu'on peut jamais être prêt à mourir? Pour moi, ça reste quelque chose de. Ah, je sais pas. Je comprends même pas qu'on puisse être prêt à mourir. Je pense que j'ai très peur de la mort. Et qu'en même temps, je sais que c'est parce que je suis mortelle que j'aime autant la vie. Donc, il y a ce paradoxe-là. C'est ce qui me rend vraiment vivante. Mais c'est une idée qui est difficile même à cerner. Puis, on peut pas imaginer ce que c'est. Donc, c'est, j'en ai pris conscience. Mon père est tombé très malade il y a pas très longtemps. Et donc, ça m'y fait penser encore plus. Et ça me fait voir, je pense que j'ai vu ma vie sous un autre angle. Et ça m'a, voilà. Il y a plein de choses qui se sont passées. Donc, je pense que plein de choses à écrire là-dessus.
Merci, Adèle.
Merci Fanny.
J'espère que ce petit bout de discussion avec Adèle Van Reet vous a donné envie de lire son premier essai La vie ordinaire. Il est disponible chez Gallimard. Vous pouvez écouter Les chemins de la philosophie du lundi au vendredi à 10h sur France Culture. Et tous les précédents épisodes sont disponibles en ligne. Le lien se trouve dans la description. Et dans cette même description, eh bien, vous trouverez toutes les références faites et les philosophes cités dans ce podcast. Merci d'avoir écouté Les gens qui doutent, évidemment. Si vous venez de découvrir le podcast, eh bien, bonne nouvelle. Vous avez plein d'autres épisodes à rattraper avec Eva Bester, Alex Vizorek, avec Sophie-Marie Laroui, Kian Kejandi et plein d'autres. Vous pouvez vous abonner via votre application de podcast et mettre des étoiles sur iTunes. Vous pouvez aussi soutenir ce projet en faisant des dons via Patreon. Et vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram en tapant Fanny Ruet pour ne rien manquer de la suite. Bisous. Et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux Maxime Wattieu.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.